Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, la rentrée scolaire ordinaire ou révolutionnaire, nous lui consacrons une large partie de ses informés, mais également nous évoquerons les féminicides à la veille du Grenelle et le Brexit. Boris Johnson vient de s'exprimer avec nos invités Saveria Rojec, vous êtes journaliste politique, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous et
bonsoir,
bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Voilà donc quelques images de cette, quelques sonores de cette rentrée scolaire, simple évolution ou vraie révolution. La question est posée ce soir. Jean-Michel Blanquer, invité sur France Info ce matin, a été questionné par un enseignant sur le contrôle continu dès la classe de première. Mais quand est-ce que les profs feront cours, a demandé cet enseignant. Voici la réponse du ministre de l'Éducation.
La question toute simple que les enseignants se posent aujourd'hui, c'est quand allons-nous pouvoir faire cours ?
C'est une question tout à fait légitime et si il n'y avait pas une bonne réponse à ça, ce serait gênant. Mais je pense que nous avons une bonne réponse puisque ça ne va pas monopoliser tout le temps de l'établissement, bien au contraire, d'autant plus qu'il y a des grandes marges de manœuvre sur la façon de l'organiser par l'établissement. Et puis nous avons fixé à 2 heures maximum cette épreuve de contrôle continu, donc ça n'est pas l'exact équivalent de l'épreuve finale avec toute son ampleur horaire. Donc ce sera Donc je pense qu'on arrive au contraire à quelque chose de simplifié.
Henri Vernet, vraiment quelque chose de simplifié selon vous ?
C'est vrai que quand on regarde le détail de cette réforme, c'est-à-dire tant par les nouvelles matières que par l'organisation, que par les choix multiples que devront faire les élèves eux-mêmes, bien avant le terme, c'est-à-dire le terme qui était auparavant le bac et ses suites, l'entrée en fac ou en prépa ou ailleurs d'ailleurs ou dans la vie active, c'est clair que non, ça paraît pas une simplification. Maintenant, on peut pas dire non plus que le système actuel, le système voilà, brillé par sa simplicité non plus. Donc non, ce qui est certain, c'est que ce système, il était arrivé, peut-être pas en bout de course, mais enfin il souffrait d'une vraie usure qui était mesurée dans la perte de rang systématique, année après année, de la France dans les classements internationaux. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas tout dire, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une espèce de depuis des années, de perte de motivation, de sens de la part des enseignants qui s'interrogent sur leur mission, de perte d'intérêt au sens de motivation et de s'accrocher au programme de la part des élèves. Bref, qu'il fallait quand même faire évoluer ce fameux mammouth.
Mais il y a toujours une petite angoisse de départ, forcément.
Mais bien sûr,
c'est légitime.
Tout changement, quelque part, est un petit peu inquiétant. Il faudrait s'inquiéter, à la limite, en France, s'il n'y a pas d'inquiétude à propos d'une réforme.
Alors, justement, oui, ça, c'est la grande question ce soir. Saveria Rojec, des cours classiques, les bonnes vieilles interro qu'on a tous connues ici, remplacé par ce contrôle continu, 40% il pèse de la note finale, ça demande quand même de l'organisation, de la réorganisation, c'est presque même un peu révolutionnaire.
Révolutionnaire, je ne sais pas, mais en tout cas, moi ce que j'entends, c'est que les opposants à cette réforme, à mon sens, n'ont pas tort quand ils disent on détricote en fait le caractère symbolique et national du baccalauréat, parce que quand on remplace par du contrôle continu, ce qui va compter aussi aujourd'hui dans la valeur de ce diplôme, ça sera le lycée d'origine. Et ça, forcément, ça crée un décalage en fonction du lycée, de l'endroit d'où vous venez. J'aimerais dire un mot également sur la méthode, parce que ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve qu'on sent le gouvernement dans son ensemble, et Jean-Michel Blanquer en particulier, très prudent. Je trouve qu'il a vraiment changé d'attitude entre juin dernier, la grande crise qu'on avait connue en juin dernier avec les professeurs qui avaient décidé d'une rétention. Certains professeurs avaient décidé d'une rétention de notes suite à cette réforme du baccalauréat. Là, on sent que
le ton va y revenir, rassurez-vous. Oui.
Je tiens aussi à dire que Jean-Michel Blanquer n'a pas le choix. Il a perdu 16 points d'opinion favorable. Donc voilà, on sent vraiment qu'il joue la carte de l'apaisement, de la concertation. Il parle d'augmentation de salaire,
Il faut espérer qu'il ne réforme pas au sondage non plus, parce que si on baisse dans les sondages et qu'on fait une réforme aussi importante, ce serait un petit peu embêtant.
Alors, Sophie de Menton, l'école, ce n'est pas une entreprise. C'est plus délicat à changer l'organisation des cours, des professeurs, le rythme de la vie scolaire.
Oui, mais quelle chance qu'il détricote.
quelle chance qu'il détricote, parce que finalement, cette réforme vue par les chefs d'entreprise, c'est tout d'un coup, comme on cherche, nous, nos salariés, on va donner à chaque enfant la possibilité de faire ce pour quoi il est doué. Et ça, c'est formidable, parce que...
Vous voulez dire quoi, que l'école doit fournir les entreprises?
Ah,
c'est voilà. Le retour à l'apprentissage.
L'école, fournir du chômage, vous préférez?
Non, allez-y.
Pour l'instant, ils étaient très bons. Hein, pour donner des chômeurs, ils étaient impeccables. Donc non, l'école n'est pas faite pour façonner, diraient les syndicats, des salariés qui vont être des forçats du travail. Mais on est en train de chercher à recruter. Les mômes, eux, voient du boulot. Et non, mais surtout, chercher le potentiel dans lequel un enfant est bon, c'est quand même formidable. Or, les mômes qui sont absolument nuls en maths pourront choisir une autre filière. Et je trouve que là, il y a tout d'un coup une compréhension du monde dans cette réforme. Il est quand même assez gonflé d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué, que ça change tout. Et alors bon, il y a une inquiétude parce que les professeurs savent plus très bien comment ils vont gérer ça. Contrôle continu, mais c'est génial. Et alors non, je crois que vous vous trompez, j'espère. Parce que ça va pas être les bons lycées qui auront un bon contrôle continu, ça va être un contrôle continu. Si le lycée est mauvais mais que le môme a été très bon dans le contrôle continu, il aura une très bonne note.
Bon, ça vous convient. Gilles Bornstein, dans le dernier sondage au Doxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, 70% des Français approuvent cette réforme du bac. Ça va être compliqué d'aller contre, je pars du point de vue des enseignants.
C'est sûr, de toute façon, elle est votée, et puis c'est vrai qu'elle introduit déjà des importants changements de comportement. Sophie n'a pas tort de dire que les élèves pourront aller davantage là où ils veulent aller. J'ai lu tout à l'heure que 50% des élèves choisissaient la sacro-sainte filière S. Aujourd'hui, 26% tient au choix et au premier choix, 26% seulement, donc la moitié, ont choisi le triptyque maths, physique, SVT. Ça veut dire qu'il y a des gens, des changements.
Oui, c'est presque de la haute couture, finalement.
C'est de la haute couture, exactement, qui permet davantage aux élèves d'aller vers les disciplines dont ils ont envie et qui, peut-être, leur seront utiles, dit Sophie. Alors, on verra. C'est sûr qu'une réforme d'une telle ampleur, forcément, il y a des incertitudes. Moi, j'ai plutôt envie de donner sa chance à la réforme, même si je comprends qu'elle pose un certain nombre de questions.
Allez, vos premières impressions donc sur cette première journée de rentrée scolaire avec l'arrivée de la nouvelle réforme pour l'heure 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Édouard Marguier.
L'ouragan Dorian a fait sa première victime, une personne est morte aux Bahamas, c'est ce qu'annoncent les autorités ce soir. Les opérations de secours ont débuté dans cet archipel des Caraïbes. L'ouragan souffle à près de 300 km/h et se dirige maintenant vers la Floride. Le principal suspect dans l'attaque au couteau de Villeurbanne est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est aussi placé en détention provisoire. Cet Afghan âgé de 33 ans a tué une personne et en a blessé 8 autres samedi soir. Incendie en Ardèche, en ce moment même, près de la Blache. Des dizaines de pompiers sont mobilisés, aidés par des Canadairs. 40 hectares de garrigues ont déjà brûlé. Boris Johnson est optimiste sur le Brexit. Le Premier ministre britannique croit encore à un accord avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre. Il le dit ce soir dans une interview avant la rentrée du Parlement demain. Et il demande aux députés britanniques de ne pas bloquer le Brexit en cas de no deal. 18 migrants sauvés de la noyade par un ferry de la compagnie Corsica Linea qui était parti d'Alger pour rejoindre Marseille. Ces personnes étaient à la dérive. Elles ont été débarquées à Majorque. Nous avons seulement fait notre travail de gens de la mer, a commenté la compagnie maritime. Le PSG fait un échange de gardiens avec le Real Madrid. Le costaricien Keylor Navas arrive à Paris et s'engage pour 4 ans. Alphonse Areola s'en va pour l'Espagne. Lui est prêté sans option d'achat. Il reste lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Henri Vernet, vous voulez rebondir sur le propos de Sophie de Menton?
Oui, ce que vous disiez sur le détricotage nécessaire, etc. Qu'une réforme soit nécessaire, encore une fois, oui, c'est vrai que cette espèce d'échec à laquelle elle était parvenue montre qu'en effet, il faut bouger les choses. Néanmoins, ce que vous soulignez, c'est que ça pose quand même le sens de cette réforme. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle est finalement un petit peu révolutionnaire, parce que la réalité, c'est un grand chambardement. C'est pas une révolution, mais ça peut l'être dans le sens que l'on donne aujourd'hui dans ce qu'on attend de l'éducation. À vous entendre, Mais ce qui se conçoit dans un pays qui est tellement frappé par le chômage, par le déclin, etc., c'est que, en quelque sorte, l'école doit, enfin, en tout cas, le lycée doit commencer à former des gens aptes au marché du travail. Mais, à la base, c'est pas ça, l'éducation.
C'est vrai.
L'éducation, c'est former des citoyens, des honnêtes hommes, comme aurait dit Montaigne, Montesquieu, mais même plus récemment, des contemporains. Et donc, là, la question se pose réellement. Il y a cet aspect-là, l'aspect, en quelque sorte, utilitaire du lycée, qui est vraiment souligné et un peu mis en œuvre par cette réforme. Et un autre aspect, qui est l'aspect un petit peu consumériste. C'est-à-dire que, en effet, aux filières dans lesquelles étaient engagés, selon leur mérite, selon leur capacité, les élèves, aujourd'hui, bah oui, c'est vrai, comme vous le disiez, Gilles, à la carte.
Vous avez raison,
quitte à se planter par la suite.
Vous avez raison, j'aime beaucoup le concept de culture d'honnête homme, etc.
Les citoyens sont culture.
C'est ce qu'on faisait avant. On s'est tellement planté. Ils étaient non seulement pas cultivés, mais pas citoyens. Alors, je crois que il y a aujourd'hui, puis les jeunes ont tellement changé. Ils sont assez pragmatiques, ils sont assez utilitaires dans leur comportement. Et donc, moi, j'aimerais que l'école soit là pour former, pour donner une culture.
Alors oui, certes, il y a aussi cet aspect des choses. Gilles Bronstein, tiens, est-ce que ça n'oblige pas nos élèves, nos jeunes, finalement, à maintenir une sorte d'effort de stress dès la classe de première, puisque ça commence le contrôle continu en première, et surtout d'être responsable, et ça poursuit la réflexion de Sophie de Menton, de leur choix dès 16 ans.
C'est certain.
Très en amont, finalement.
L'individualisation, la liberté, le choix personnel, ça génère du stress. Alors, à chacun son tropisme, les libéraux, les partisans de la liberté diront c'est ça. Une vraie société est une société de liberté où chacun exerce ses choix, et d'autres diront c'est donner du stress trop tôt à des enfants qui n'ont pas encore l'âge de l'encaisser. C'est vrai qu'il y a des choix. C'est vrai que aussi ça va, dès la classe de première, un petit peu contrebalancer le concept de classe, puisque jusqu'à présent, nous tous, on a vécu une scolarité où en première, en terminale, on était dans une classe.
Ça va dans le sens du consumérisme, de l'individualisme, chacun fait son choix.
On était du matin au soir avec les mêmes camarades. Là, il y aura un tronc commun pour 14 heures, mais pour 12 heures, des éléments éclatés. Alors, il n'y aura plus vraiment de classe. De la même manière, les Indes disent, c'est très bien, parce que la classe, finalement, c'était oppressant pour les plus faibles. Toute la journée, les plus faibles se retrouvaient toujours avec les mêmes, et là, ils pourront respirer. Et d'autres disent, la classe, cette entité, à 16-17 ans, c'était quand même un facteur de stabilité. Ouais. Moi, c'est vraiment des matières sur lesquelles j'ai pas tellement de certitude. Je pense qu'on verra...
On est tous assez prudents pour dire il fallait faire cette réforme, il fallait changer les choses. Maintenant, on attend tous de voir ce que ça va donner. Pour rebondir ce que vous disiez sur le stress et sur le déterminisme du choix dès 16 ans, dès la classe de première, c'était déjà le cas. Il fallait déjà choisir la filière. Il y avait déjà
le bac français, malgré tout.
À la fin de la classe
un
de première.
Brin plus généraliste.
Peut-être, mais il y avait déjà le stress était là.
On n'est pas bon du tout.
Et le déterminisme des choix de l'étudiant dès 16 ans était déjà là.
Alors, il y a le problème des salaires. 300 euros de primes versées par an, on en a beaucoup parlé. Voté sous Hollande, je n'ai cessé de dire que ce n'est pas assez. C'est longuement défendu le ministre de l'Éducation sur France Info ce matin, Jean-Michel Blanquer, qui a parlé cependant d'un signal. Voici ce que lui a répondu tout à l'heure. Francette Popineau, c'est la co-secrétaire générale et porte-parole du SNU-IPP-FSU, c'est le syndicat leader du primaire, était l'invité du 18-50 France Info.
Bien sûr que ce n'est pas rien, mais simplement là, l'annonce des 300 euros bruts par an se décline différemment selon les enseignants. Par exemple, les jeunes enseignants pour lesquels il faudrait faire un effort pour rendre le métier attractif ne percevront rien.
Gilles Bornstein, le salaire des profs, c'est quand même, des instituteurs, des profs en général, c'est au cœur des préoccupations de la rentrée quand
même. Ça c'est certain, c'est au cœur de préoccupations des profs. Ils n'ont pas tort de dire qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème par rapport à leur niveau d'éducation, parce que j'ai lu qu'à niveau d'éducation égal, effectivement, on gagnait moins d'argent quand on devenait prof que quand on devenait autre chose, même si on le sait, on a moins d'heures de cours et plus de vacances. Et puis, il y a évidemment une immense différence par rapport à leurs collègues de l'Union européenne ou d'ailleurs. On a beau affirmer année après année la priorité à l'éducation nationale pour Emmanuel Macron, à la jeunesse pour François Hollande avant, eh bien, cette priorité affirmée ne se voit pas dans le salaire des profs qui ne sont pas.
Là encore, il y a des annonces. Voilà, on ne peut pas dire que c'est rien, c'est 300 euros. On ne peut pas dire que c'est rien. Il y a des annonces. Ils se saisissent de la question. Là encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le changement d'attitude, je trouve.
Les 300 euros, c'est François Hollande. Oui. C'est une décision du quinquennat précédent.
Absolument. Ce qui avait été gelé par Emmanuel Macron à son arrivée. Néanmoins, voilà, on les annonce aujourd'hui, elles sont faites. Voilà, encore une fois, je trouve que ça participe du changement d'attitude. Quand Jean-Michel Blanquer dit qu'il a reçu, par exemple, la semaine dernière, deux fois la présidente du SNES, qui jusqu'à présent avait beaucoup de mal à être reçue, là, elle a été reçue deux fois personnellement par le ministre. Quand le ministre dit, non, mais on ne peut pas dire que ce n'est rien, quand le ministre
ça,
dit.
Ça concerne le comportement et l'attitude du ministre et la rentrée en général du gouvernement. Non, mais je voudrais insister sur les salaires. Henri Vernet, c'est le Parisien qui a publié un tableau comparatif des salaires des enseignants en Europe avec une énorme différence entre l'Allemagne qui est en tête de gondole, si je puis dire, avec le double de la France, et ensuite, je crois qu'il y a la Grèce.
Bien sûr, ça relève aussi d'ailleurs souvent des lenders qui ont même des moyens importants, etc. Mais ça montre aussi justement la place, l'importance qu'on accorde à l'éducation dans son système de société, dans son système politique. Clairement, mais c'est une évidence que les profs en France ne sont pas assez payés. Et surtout, ce qui est le plus peut-être frappant et gênant, c'est qu'il n'y a pas de perspective d'évolution. C'est-à-dire qu'en gros, vous commencez, vous entrez dans cette carrière, vous savez combien vous gagnez au début, et vous savez combien vous gagnerez dans 10 ans, et puis en fin de carrière, dans 30 ans, enfin 30 ans plus tard. Et c'est vrai que c'est pas extrêmement motivant. Donc il faudrait instiller là-dedans un petit peu plus de souplesse, de motivation et surtout un petit peu plus de moyens. Après, il faut être cohérent. Ça veut dire que si on veut une fonction publique puissante, même avec des choix, en ciblant les endroits où c'est le plus nécessaire, forcément, ça place exactement par des moyens et donc par des impôts.
L'attraction de la profession.
Les premiers qui diront il faut mieux payer les profs, vous diront oui, d'accord, mais ne touchez pas
juste sur l'attraction de la profession, il y avait une enquête très intéressante qui a été publiée hier, je crois, dans Libération, qui était à la une sur justement, c'est encore une profession qui attire et qui attire surtout en deuxième partie de carrière, c'est-à-dire que des gens font des choix, même des cadres, de changer, d'abandonner le travail et de se diriger vers le métier d'enseignant, donc
avec des motivations diverses. Oui. Sophie de Menton, sur cet aspect salarial des choses, je sais bien que nous sommes.
D'abord, il y a des profs très contents. Oui. Non, mais on peut pas dire les profs et le salaire des profs. Les agrégés, ça va à peu près. Et d'ailleurs, dans le monde, ce soir,
3 540 € de salaire moyen.
Gilles Bernstein.
Quand vous comparez.
Non, mais c'était pour préciser votre
pensée. Oui, mais c'est bon. Alors, on peut décider à quel âge, comment, etc. Donc, la réalité, effectivement, c'est qu'il faut payer les gens. Moi, vous allez tous hurler. Je pense aussi que.
Personne ne hurle, je vous rassure.
Bon, allez-y. Alors j'y vais. Pense que ce serait intéressant aussi qu'il y ait l'intéressement au résultat un petit peu. Il y a des professeurs qui sont géniaux.
Ah là, je sais pas. Voilà.
Il y a des professeurs qui sont.
Terrain glissant, Sophie Menton.
Dans les pays anglo-saxons, un prof qui a des très bons résultats, qui se défonce, qui est un excellent prof, on peut juger quand même. Il y a des promotions possibles et on gagne plus. Et d'ailleurs, dans les salaires des professeurs, il y en a qui gagnent beaucoup mieux leur vie parce qu'ils ont d'autres tâches, des corrections de copies, où ils peuvent être rémunérés, etc. Et enfin, il peut y avoir aussi un soupçon d'entreprise dans cette histoire et une autonomie des établissements, avec des établissements dans le privé d'ailleurs qui pourraient payer, attirer des très bons profs. Enfin, je veux dire que tout est ouvert et j'aime pas l'idée qu'on considère l'éducation nationale comme juste la fonction publique. C'est bien plus que ça.
Henri Vernet.
Donc, c'est pas de fonction publique, c'est tout simplement parce que l'employeur et les salariés relèvent de ce domaine, tout simplement. C'est un fait. Non, mais bien, oui, vous avez raison, le secteur privé aussi, loin de moi l'idée de les mettre à part. Non, ce que je veux dire, c'est que, pourquoi pas, en effet, motivation, mais enfin, cette histoire de se focaliser, enfin, en tout cas, d'étudier les résultats, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui sera un bon résultat pour un bon prof? Est-ce que c'est un lycée qui partait de loin et qui arrive à un taux de bac satisfaisant? Enfin, voilà. Il faut vraiment mettre en place ces critères, et ça, c'est pas simple.
20h21, pardon pour le retard sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Édouard Marguier.
Boris Johnson brandit la menace de la crise politique au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique convoquera des élections anticipées mi-octobre s'il essuie une défaite au Parlement. Il demande en fait aux députés de ne pas bloquer le Brexit en cas de no deal. Par ailleurs, il croit encore à un accord avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre. Le suspect de l'attaque au couteau de Villeurbanne est en prison à cette heure-ci, placé en détention provisoire ce soir, mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Samedi soir, il a poignardé des personnes qui attendaient le bus. Un jeune de 19 ans est mort et 8 autres personnes ont été blessées. Les secours commencent leur travail après le passage de l'ouragan Dorian sur les Bahamas. Les autorités déplorent déjà la mort d'une personne pour l'instant. L'ouragan prend maintenant la direction de la Floride. Sur l'autre côte américaine, la côte ouest, 34 personnes sont portées disparues après l'incendie d'un bateau. C'était au large de la Californie. À la veille de l'ouverture du Grenelle des violences conjugales, les associations féministes demandent un plan Marshall doté d'au moins 500 millions d'euros. Ce qu'on attend, ce sont des résultats, a déclaré la présidente de la Fondation des Femmes. Un nouveau forfait en équipe de France de football. Paul Pogba est blessé à la cheville et ne pourra pas jouer les matchs contre l'Albanie et Andorre samedi et mardi prochain. Il sera remplacé par l'espoir Matteo Guendouzi. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé font eux aussi partie de la liste des absents.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors la réforme est-elle figée ? Le ministre de l'Éducation, toujours sur France Info, a parlé d'évaluation, voire de possibles aménagements.
C'est, je pense, une des vertus du système dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est que non seulement pour l'année qui vient, mais même dans le futur, cela permettra de faire avancer les choses de manière beaucoup plus souple que ça n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui de notre système. Donc, si vous avez,
cette réforme, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle peut être amendée, modifiée, corrigée.
Bien sûr, il y a des choses qui sont crantées, si je puis dire, hein, c'est-à-dire la fin des séries, le 60% de contrôle final et le 40% de contrôle continu. Ensuite, sur les modalités, il y a encore des choses à discuter, c'est ça qui est intéressant.
Gilles Bernstein, ce n'est pas totalement plié cette affaire ?
C'est ce que dit le gouvernement de toutes les réformes, puisque ça a été au début dans l'ADN, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, de dire qu'il voulait des réformes efficaces. On sait qu'elles sont efficaces ou pas en les jugeant, et que si elles n'étaient pas efficaces, on pourrait revenir dessus. Alors il y a eu le feuilleton de l'ISF où il a promis que finalement il jugerait de l'utilité de la suppression de l'ISF et qu'éventuellement il serait peut-être quelques aménagements. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit très prêt à revenir ce sur quoi il a pensé. Donc, le ministre. Enfin, je n'ai pas d'éléments particuliers pour savoir si, effectivement, cette réforme est réversible ou pas. On verra.
Nous verrons bien à l'usage, oui.
Jusqu'à présent, les réformes de Macron n'ont pas été tellement réversibles.
Ça va dire, Jacques, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le changement d'attitude, de ton de la rentrée.
Oui, absolument. C'est là encore, on joue l'apaisement, la concertation. Parce que je ne vois pas comment on peut revenir sur une réforme qui, aujourd'hui, dans les faits, est appliquée, a été votée. Donc, à mon sens, c'est beaucoup une question d'officiel. Je voulais dire un mot sur cette affaire de la Marseillaise et du drapeau français. C'est une mesure qui a été décidée cet été. Oui. Le gouvernement a demandé, l'Éducation nationale a demandé que les paroles de la Marseillaise et le drapeau français soient affichées dans toutes les classes. On peut y voir, bien sûr, une question d'affichage, une question de communication. Néanmoins, à mon sens, c'est une bonne mesure parce que pour moi, l'école, c'est le lieu où on se construit, le lieu où on apprend la citoyenneté, où on apprend son pays. Mais là encore, on en revient à des questions purement, j'allais dire, prosaïques. C'est la question des moyens. C'est-à-dire que l'Éducation nationale demande ça à tous les directeurs d'école, mais la mesure n'est pas budgétée. Ce sont les collectivités qui gèrent.
Moins cher que moins cher que.
Oui. Peut-être, mais néanmoins, chaque école de France se retrouve. Ça coûte en moyenne 2 500 euros par école. Ça n'a pas été budgété. Donc là encore, tous les directeurs d'école aujourd'hui nous disent oui, bien sûr, on veut le faire, on trouve ça très bien, mais on n'a pas les moyens de le faire. Résultat d'ailleurs, pour l'anecdote, ce ne sera pas un drapeau français, ce sera juste une affiche du drapeau qui sera collée.
Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Henri Bernet, vous vous rappelez quand le ministre cet été parlait d'une minorité radicalisée à propos de ceux qui faisaient la grève des notations du bac. Changement de ton.
Non, mais complètement. Et en effet, c'est l'image de ce Macron nouveau qu'on veut nous vendre, nous présenter. Ce sera d'ailleurs l'objectif du séminaire gouvernemental qui se tiendra mercredi. C'est uniquement ça. Je veux dire que sur le fond, il n'y aura rien de très important qui s'y décidera. En revanche, cet affichage, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effet gilet jaune. C'est-à-dire que ce qui est réversible, là, c'est les vestes. Là, c'est le gilet. Donc, le gilet jaune, c'est réversible parce que il est, en effet, il finit le temps jupitérien où tout venait d'en haut. C'était pyramidal. Une fois pour toutes, c'est fini. En tout cas, on nous le promet. Maintenant, encore une fois, l'habillage ne fait pas le fond. Si des réformes doivent réellement être réévaluées, bon, en plus là, Blanquer, il a le ministère le plus délicat, le plus sensible, celui en général où on ne dure pas longtemps. Il aura déjà fait 2 ans et il s'accroche. Il a ses réformes. Il a malgré tout, il a une certaine vision de son poste. Donc, s'il veut y rester, il doit plutôt éviter de stigmatiser.
Il s'accroche, mais comme le dit Henri Vernet, mais avec une cote de popularité qui dégringole, 46% dans le même Odoxa.
Oui, il a perdu 16 points de popularité. Alors, il reste une cote de popularité.
popularité que le président de la République voudrait bien avoir demain matin. Oui. Hein. C'est quand même
oui, le 46%, moins ça reste insolent en fait. Oui. Bah,
dans le dans l'étiage du gouvernement, ça reste
surtout pour l'éducation nationale.
Ça reste maillot oui. jaune, ça reste pas mal. L'ironie de cette nouvelle méthode, c'est que ça s'applique à Jean-Michel Blanquer, qui était le plus jupitérien des jupitériens. Lui, il faisait partie de ces ministres qui appliquaient, qui n'étaient pas très pour la discussion et dont l'autorité était au cœur du de la pensée. C'est-à-dire que lui, il est pour une école où on apprend à lire, écrire et compter, où c'est le maître qui décide, où les élèves appliquent. Donc pour lui, c'est une double révolution copernicienne que d'apprendre à un petit peu négocier.
On se souvient justement de son attitude, Jean-Michel Blanquer, il y a à peine 2 mois, ça paraît. Mais il y a 2 mois, c'était, il avait choisi le passage en force, justement l'autorité, face à la grève des professeurs qui faisaient de la rétention de notes. Il avait décidé que les notes seraient celles des contrôles continus. Non mais il avait, voilà, c'est vraiment
mais il s'adapte
un changement complet. De méthode.
Allez, ils s'adaptent. Et moi, je trouve que, coup de chapeau, ils ont pris une leçon avec les gilets jaunes. Ils ont vu que ça passait pas. Ils s'assouplissent. Bravo.
20h et presque 28 minutes sur France Info. Nous marquons une pause dans ces informés. On se retrouve juste après la météo et le rappel de l'info.
Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est inacceptable. Il ne faut rien laisser passer.
Que vous soyez victime ou témoin, le 3919, numéro anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919 est un numéro vital.
Alors le mardi 3 septembre 2019, le 3919, mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro autour de nous.
Le 3919, partageons tous ensemble le 3919.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point fort fichier reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Temps calme et largement ensoleillé pour demain sur la majeure partie du pays. Le ciel sera quasiment tout bleu, parfois agrémenté d'un léger voile de nuages d'altitude. Entre le Nord Finistère, les Côtes d'Armor et le Nord Pas-de-Calais, le soleil sera accompagné de petits paquets nuageux. Quelques nappes de grisailles pourront tarder à se dissiper, notamment en Basse-Normandie et en Bretagne. En Corse et sur les Alpes du Sud, de l'instabilité résiduelle pourra encore donner naissance à des averses, voire même à des orages demain après-midi. Le début de journée sera un peu frais. On attend 4 degrés à Nevers, 6 degrés à Reims et à Metz et 7 degrés à Rennes, Alençon et Limoges. En revanche, les maximales de l'après-midi seront en hausse. 23 degrés pour Caen, Vannes et Lille, 24 degrés à Paris, 26 degrés à Lyon, Nantes et Strasbourg et 28 degrés à Toulouse et Bordeaux. On trouvera plus de chaleur autour de la Méditerranée avec 31 degrés à Marseille et 33 degrés à Montpellier. Enfin, autour du golfe du Lion, le vent restera sensible, aggravant le risque d'incendie.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonjour à tous. C'est le début de l'après-midi aux Bahamas. Les opérations de secours commencent. Un premier corps a été retrouvé, mais il est encore très difficile de connaître l'étendue des dégâts alors que l'ouragan Dorian continue de dévaster l'archipel. Un archipel qui compte 700 îles, une trentaine seulement sont habitées. Et le déluge de ces dernières heures pourrait avoir détruit des milliers de maisons. La première évaluation, c'est celle de la Croix-Rouge qui est sur place. L'un de ses responsables, Sandy Verabadren, évoque déjà le risque de crise sanitaire majeure.
Aujourd'hui, nous savons déjà que, d'après les informations qu'on a de la Croix-Rouge et des Bahamas, beaucoup d'intrusions marines, beaucoup de précipitations, des dévastations au niveau des sources d'eau, des risques de contamination de l'eau par les intrusions marines, et puis les abris, les systèmes d'assainissement qui sont fortement impactés déjà à ce jour. Au niveau de la population de cette zone, qu'on estime à peu près 80 000 personnes, on considère qu'il pourrait y avoir des dévastations qui atteignent jusqu'à 90% de ces familles, donc à peu près effectivement 12 000, 13 000 foyers, 13 000 familles.
Ce soir, l'ouragan a légèrement faibli. Il est classé en catégorie 4, mais les vents atteignent encore les 250 km/h. Au large de Los Angeles, c'est un bateau de tourisme qui a sombré. En fin d'après-midi, à bord, il y a une trentaine de passagers. Le bateau a pris feu pour une raison encore inconnue. Les passagers auraient été piégés par les flammes alors qu'ils dormaient. Les étudiants de Hong Kong se mobilisent. Ils étaient des milliers. habillé tout en noir aujourd'hui pour le premier jour d'une grève des cours, nouvel acte de ce mouvement démocrate qui défie le pouvoir central de Pékin depuis près de 3 mois maintenant. 15 000 habitants de la ville d'Hanovre en Allemagne ont reçu l'ordre de quitter leur maison ou leur appartement ce soir après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale dans le quartier du Zoo. Les opérations de déminage pourraient durer toute la nuit. En France, à retenir ce soir la mise en examen du suspect à Villeurbanne, cet homme de 33 ans qui avait blessé au couteau 8 personnes samedi dernier avant de tuer un jeune de 19 ans. Il est poursuivi désormais pour assassinat et tentative d'assassinat. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu les faits tout en tenant des propos incohérents et confus. Les analyses ont montré qu'il avait consommé beaucoup de cannabis samedi dernier. La deuxième compagnie aérienne française, Aigle Azur, se déclare en cessation de paiement. Elle souhaite être placée en redressement judiciaire afin de trouver au plus vite un repreneur. Cette compagnie, créée en 1946, compte 1 000 000 de salariés et dessert principalement l'Algérie, mais aussi le Liban et le Brésil. Les salariés évoquent des erreurs de stratégie ces dernières années. Et puis le sport, Gaël Monfils va tenter ce soir de se qualifier pour les quarts de finale de l'US Open de tennis. Rendez-vous aux alentours de 23h sur France Info pour le match contre l'Espagnol Pablo Andujar. L'arrivée de Keylor Navas au Paris Saint-Germain, là c'est du football, le gardien de 32 ans arrive tout droit du Real Madrid. En échange, Alphonse Areola est prêté au club de Zidane jusqu'au 30 juin prochain. France Info, 20h33, c'est la suite des informés, tout de suite avec Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Saveria Rojec, journaliste politique, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Un 100e féminicide survenu en France à Cagnes-sur-Mer. Une femme qui a été battue à mort, le compagnon de la jeune victime a été interpellée. La piste d'un meurtre par conjoint est privilégié. Le Grenelle sur les violences conjugales s'ouvrira demain. Une centaine de militantes du collectif Nous Toutes, place du Trocadéro hier soir à Paris, a lancé un mot d'ordre réclamant 1 milliard pour essayer d'enrayer ce phénomène. Pour poser le débat, je vous propose d'entendre l'émotion d'Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des Femmes, qui était l'invitée d'Europe 1 ce matin.
Combien elles vaut leur vie en fait? Nous, on s'épuise à le dire avec les associations que on a toutes ces femmes qui sont dans des situations terribles, elles sont terrorisées. Et en fait, derrière, il y a des vrais problèmes de prise en charge. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des économies de bout de ficelle. Et donc, demain, c'est le Grenelle des violences conjugales. On veut pas qu'il y en ait deux, on veut pas qu'il y en ait trois, on veut qu'il y en ait qu'un. Et que ça change significativement les choses. Pour ça, il faut absolument qu'il y ait des moyens qui soient mis sur la table. Et quand les associations parlent d'un milliard, c'est basé sur un rapport. Un rapport qui dit qu'aujourd'hui, il n'y en a que 78 millions qui sont mis sur la table. On peut faire baisser le nombre de féminicides en France si on fait bien notre boulot et si les politiques prennent leurs responsabilités.
Voilà, Anne-Cécile Maillefer, très émue, hein, qui a réclamé au moins 500 millions, voire plus. Savaria Rojec, c'est aussi une question de moyens.
Ce n'est qu'une question de moyens et de décisions politiques. Oui, c'est qu'une question de moyens et de décisions politiques. Nos voisins européens qui subissaient les mêmes fléaux, les mêmes drames, en l'occurrence, on parle beaucoup de l'exemple espagnol, ont réussi, ont pris à bras-le-corps ce fléau de la violence conjugale et ils ont réussi à faire bouger les choses. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de plaintes qui sont déposées en Espagne qu'avant. Il y a 4 fois plus d'ordonnances de protection. Tout ça, ce sont des moyens. L'Espagne est un pays méditerranéen. Il y avait énormément de violences conjugales. Ils se sont saisis de la question. C'est une question de moyens, de chiffres. Les associations réclament, on vient de l'entendre, 1 milliard d'euros ou 500 millions. Voilà. Marlène Schiappa a annoncé la semaine dernière 1 million d'euros pour les associations.
Oui, le slogan, alors, c'est nous, voilà. Nous voulons 1 milliard, pas 1 million. Voilà.
Voilà, exactement. Alors après, je salue bien sûr, et c'était une nécessité que le gouvernement se saisisse de ce drame, se saisisse de cette cause, et en fasse une grande cause nationale, mais à une grande cause, ça doit rimer avec des grands moyens. Il faut des grands moyens, il faut des mesures concrètes.
Voilà. Sophie de Menton, j'ai précisé aussi parce qu'il y a la nécessaire prise de conscience.
Alors, il y a la prise de conscience qui est indispensable. Il faut savoir aussi, et je voudrais saluer toutes ces femmes qui sont mortes de violences conjugales. Et là, aujourd'hui, on se focalise sur notre époque. Il faut savoir que c'était encore pire avant. Et que, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, mais que les femmes ont été battues et tuées depuis des centaines et des centaines d'années, des millénaires. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, moi, je suis très troublée par le manque de coordination qu'il peut y avoir, beaucoup plus que de moyens. Vous allez au commissariat, parce que j'ai vécu un cas là de très près, que je continue à vivre, de femme battue qui a failli être tuée par son mari. Il ne se passe rien, au commissariat, ils ne peuvent rien faire. Alors, on met des distances. Cela dit, on n'interdit pas au père de voir les enfants, parce qu'on n'a pas le droit. La justice est trop lente, le commissariat écoute. Donc tout ça, ce qu'ils ont fait en Espagne, c'est le bracelet électronique, qui est vachement bien, où là,
ils ont fait les ordonnances de
protection. Mesure où est l'homme, mais notre justice n'est pas adaptée et le problème des enfants est terrible.
C'est alors, pour ça que justement, c'est que vous parliez de la police, de la surveillance. Une habitante de Caen-sur-Mer qui a été témoin du féminicide présumé, il faut le dire comme tel, sur France Bleu Azur, Henri Vernet a dénoncé la lenteur, l'inefficacité de l'intervention des forces de l'ordre. C'est une accusation récurrente.
Oui, bien sûr, mais c'était aussi le cas, alors j'oublie le nom précis, mais c'est ce fait divers terrible qu'il y avait eu, donc cet assassinat de femme par son conjoint en Savoie en juillet, où le signalement avait été fait et refait. Donc normalement, il n'aurait jamais dû se produire et pourtant, il s'est produit. Et c'est ça, en effet, quand on parle de moyens, ce ne sont pas uniquement des moyens financiers, des millions et des centaines de millions mis sur la table. Ils sont sans doute nécessaires. Mais ce sont également des comportements à changer. Et donc là, en l'occurrence, ce à quoi vous faites allusion, ce qui s'est passé à Cagnes, c'est assez effarant. C'est-à-dire que donc une voisine assiste à l'assassinat, elle assiste au meurtre, elle voit, elle entend ce qui se passe. D'abord, non seulement elle n'est pas la seule à l'entendre, simplement elle est la seule à se manifester. Personne ne fait rien, personne ne bouge dans l'immeuble. Et deuxièmement, en effet, donc elle appelle la police et la police met du temps à arriver, peut-être à prendre en considération réellement l'appel. Et une fois sur place, considère que ils n'entendent plus rien, ils pensent que l'épouse s'est apaisée. Non, c'est pas que l'épouse s'est apaisée, c'est que l'homme a assassiné sa femme. Et on parle aujourd'hui de méconnaissance, de comportement pas encore approprié. En effet, justement, il faut changer tout ça. Il faut changer, par exemple, il se trouve que nous, on a Marlène Schiappa demain dans le journal. Elle dit, par exemple, elle s'étonne, elle est même sidérée du très, très faible nombre de téléphones d'extrême urgence qui pourraient être remis, donc il y a une terminologie que j'oublie, qui pourraient être remis à des femmes et qui ne le sont pas parce qu'il manque la décision judiciaire. Ouais. Là, c'est pas la police, c'est la décision judiciaire.
Ils ne vont pas non plus jeter l'opprobre sur les juges. C'est un système, effectivement, qui est défaillant.
Sévaria n'a pas tort que c'est quand même beaucoup un problème de moyens, parce que de tout ce que...
De moyens conjugués.
De moyens conjugués, mais de tout ce que je lis là-dessus, vous avez raison, il y a toujours des indices, on sait que ça se passe mal dans une telle famille, et j'ai l'impression que le seul moyen d'être sûr que ça ne se passe pas, c'est que les femmes puissent partir. Et pour partir, il faut un toit, parce que souvent, c'est des femmes qui doivent partir avec leurs enfants. Et c'est sûr qu'il faut des moyens.
Il vaut mieux virer le mari,
Comment ?
Il vaut mieux virer le mari que ce soit la femme qui parte.
Non, justement, non. Justement, non. Parce que la loi ne permet pas.
La mesure, ce que je dis, c'est absurde.
La mesure d'urgence, c'est de pouvoir exfiltrer la femme et ses enfants.
Il faut des centres d'hébergement 24 heures sur 24.
Il faut des centres d'hébergement pour être sûr que ça ne se produise pas. Et ça, il faut des moyens. Et on en revient à ce que disait Henri tout à l'heure sur la dépense publique. Bien, ça, c'est de la dépense publique. Alors, les mêmes qui protestent contre l'absence de moyens là-dedans sont souvent protestent contre le manque de diminution des dépenses publiques et le trop d'impôts en France, politique publique, ça coûte cher.
Ce sera donc l'objet de ce Grenelle demain. Sachez que Radio France, France Télévisions, France Média Monde et Arte se mobilisent contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et sensibilisent le grand public en améliorant notamment la notoriété du numéro d'écoute, le 3919. Allez, il est 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Édouard Marguillet.
La police des polices est saisie de l'affaire de Caen-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Cette femme retrouvée morte sous un tas d'ordures après une dispute conjugale. L'IGPN devra apporter des éclaircissements sur les conditions et les délais de l'intervention policière. Le principal suspect dans l'attaque au couteau de Villeurbanne est mis en examen ce soir pour assassinat et tentative d'assassinat. Cet Afghan de 33 ans a tué une personne et en a blessé 8 autres samedi soir. Boris Johnson dit son optimisme sur le Brexit. Le Premier ministre britannique croit encore à un accord avec l'Union européenne d'ici le 31 octobre. Il le dit ce soir avant la rentrée du Parlement demain et demande aux députés de ne pas bloquer le Brexit en cas de no deal. Sinon, il convoquera des élections anticipées. Les secours découvrent les dégâts aux Bahamas en ce moment même après le passage de l'ouragan Dorian. Ils annoncent la mort d'une première personne. L'ouragan se dirige en ce moment vers la Floride. Incendie en Ardèche, près de l'Ablachère, des dizaines de pompiers sont mobilisés, aidés par des canadaires. 40 hectares de garrigues ont déjà brûlé. La compagnie aérienne Aigle Azur est en cessation de paiement. Elle s'est déclarée aujourd'hui et demande son placement en redressement judiciaire dans l'espoir de trouver des repreneurs. Cette compagnie compte 1150 salariés. Elle est spécialisée dans les vols vers l'Algérie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Et merci Edouard Marguier, Boris Johnson qui s'est donc exprimé ce soir devant le 10 Downing Street après avoir réuni son cabinet. Il déclare donc croire aux chances de conclure cet accord de sortie de l'UE avec Bruxelles et apparemment donc convoquera des élections anticipées. Il disait l'inverse tout à l'heure ce matin si le Parlement rejette le Brexit. On écoute d'abord Boris Johnson.
I am encouraged by the progress we are making.
Je suis encouragé par les récents progrès sur le Brexit. Ces derniers jours, les chances d'un accord ont augmenté et je me sens renforcé avec cette conviction. Je crois que nous aurons un accord à ce sommet crucial en octobre. Un accord que le Parlement va certainement voter. Pendant ce temps, laissons nos négociateurs continuer leur travail sans épée de Damoclès au-dessus de leur tête et sans une nouvelle élection. Sans nouvelle élection, je ne veux pas d'élection, vous ne voulez pas d'élection. Continuons avec notre programme.
An election. I don't want an election. You don't want an election. Let's get on with the people's agenda.
Voilà, je vous ai laissé le sonore jusqu'à la fin parce qu'on entendait les clameurs derrière de la foule qui est face à Boris Johnson au 10 Downing Street. Sophie de Menton, est-ce qu'il souffle pas le chaud, est-ce qu'il ne souffle pas le chaud et le froid, le Premier ministre britannique, parce qu'il parle d'un accord possible d'un côté et de l'autre, il veut sanctionner les conservateurs si d'aventure il s'opposait à la sortie, une sortie dure même.
Alors, non seulement ça, mais il était pro-européen il y a 10 ans. Il était pro-européen. Moi, je voudrais que la reine d'Angleterre intervienne. Je pense qu'il y a un moment où, après tout, il y a une royauté qui est terriblement respectée des Anglais. Elle est simplement garante de l'unité du pays. Et je trouve que l'unité du pays, elle peut, oui. Elle pourrait. Et
elle
je
n'est
pense
jamais
que,
intervenue justement, sur des questions.
Et ben justement. Et là, l'unité du pays me semble vraiment menacée. Ça menace l'Europe, ça menace l'Angleterre gravement, ça divise le pays. Je me demande si, en tout cas, obliger le Parlement à ne pas se réunir n'est pas un cas de force majeure.
Alors, est-ce que le pro-européen que vous décrivez, ça va, Roger, qu'est-ce qu'au fond, Sophie de Menton, en raison de dire, parce que le Boris Johnson que nous avons en mémoire a toujours été quand même très eurosceptique? Voire plus.
Oui, puis surtout, oui. C'était un des leaders, justement, du...
Oui, mais il a eu des discours pro-européens.
À mon sens, je pense qu'il faut... Oui, il ne faut pas se baser sur ce qu'était Boris Johnson il y a une dizaine
Non, mais ce veut dire, c'est qu'il change de vie tout le temps.
Ah oui, ça...
Ça, c'est sûr. Et ce qu'on voit aujourd'hui de Boris Johnson, c'est un homme qui est égal à lui-même. On le voit, il change de position dans la journée même.
C'est ça.
Donc, il est brutal, il est populiste, il est inconséquent. Et il est, bien sûr, menaçant. Il est menaçant envers les députés de sa propre majorité. En fait, il y a une vingtaine de députés conservateurs qui souhaitent légiférer, qui souhaitent profiter des quelques jours là où le Parlement britannique va siéger, parce qu'en fait le Parlement se réunit demain, il va ensuite être suspendu d'ici la fin de la semaine pour un mois, et donc les députés britanniques veulent profiter de ces quelques jours pour légiférer et pour tenter de sortir de ce no deal. Et vous avez raison, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment, c'est ce que je pense, que Boris Johnson, ce qu'il joue, c'est à son habitude, c'est le bras de fer. Il joue le bras de fer à la fois au Royaume-Uni, mais il joue le bras de fer aussi avec l'Union Européenne en disant moi je suis prêt à renégocier l'accord, alors qu'en fait il sait très bien que Michel Barnier, le négociateur en chef, lui a dit il n'y aura pas de renégociation de l'accord. Theresa May a déjà échoué trois fois à présenter cet accord à ce Parlement. Par ailleurs, il a une majorité qui est extrêmement fragile, il n'a qu'une voix de majorité. Ouais. Effectivement, à mon sens, on se dirige vers des élections anticipées.
Henri Vernet, la méthode de Boris Johnson, comment la qualifieriez-vous?
Le bluff et le coup de force, bien sûr. Là, c'est un bluff. Ah oui, complet. Ce soir, c'est un bluff. Il n'y aura pas de renégociation de l'accord. Attendez, c'est une évidence totale. En effet, Michel Barnier, qui reste le négociateur en chef de l'Union européenne, exactement, l'a répété. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, qui pèse quand même aujourd'hui de quelques poids en Europe, ne veut même pas entendre parler de changer d'un iota cet accord. Et s'il y a un seul point sur lequel les Européens ont montré ces deux dernières années une véritable union, une véritable force, c'est justement face à ce Brexit, face à ce dossier-là. Donc non, il n'y en aura pas. Donc c'est en cela que c'est du bluff. C'est en effet du bluff pour éviter quelque part la dissidence de sa propre famille politique dont vous parlez, pour éviter qu'il ne se range avec les travaillistes de Corbyn et avec les libéraux démocrates pour voter un principe de pas de sortie sans accord, sans deal négocié. Donc c'est du bluff, c'est du coup de force. Oui, vous en appelez à la reine d'Angleterre. Bah non, ce serait un autre coup de force. Et donc ce serait dommage. Mais ce qui est certain, ce qui est d'une tristesse absolue et en même temps tellement révélateur de l'époque des démocraties modernes, de Trump à ce qu'on voit dans beaucoup de pays européens, sans parler de Bolsonaro et du Brésil, c'est-à-dire une perte, et c'est particulièrement gênant avec la Grande-Bretagne, qui est quand même la démocratie parlementaire par excellence, c'est-à-dire où l'esprit parlementaire est sans doute le plus abouti dans le monde moderne, et quand on voit à quel point c'est mis à mal depuis 2016, depuis le Brexit, c'est à pleurer, quoi. Et qu'en plus, ce pays-là quittera l'Europe n'en sortira pas grandi.
Trois points. Ce que vous dites sur les leaders populistes, Trump, Bolsonaro, Johnson, vous pouvez rajouter Erdogan ou Poutine si vous voulez. J'enlève Poutine parce qu'il n'est pas vraiment élu. C'est que nous, ça nous choque, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils font très exactement arriver au pouvoir ce pourquoi ils ont été élus. Avec lequel on ne sera pas d'accord autour de cette table. Mais enfin, Boris Johnson...
Vous voulez dire qu'ils ont une légitimité, en fait.
En tout cas, oui, Boris Johnson, il a pris le pouvoir en disant, moi, je ferai...
il n'a pas été élu pour bousculer le Parlement. On parle du Brexit, c'est une chose.
Mais là,
il bouscule le Parlement, mais c'est autre chose. Il n'a pas été élu pour ça.
D'accord, le Parlement, c'est un moyen. Là, on parle du Brexit dur ou pas, qui est la finalité. Il a pris Downing Street pour le faire et il va le faire. Trump a fait la même chose. Bolsonaro a dit des choses absolument inimaginables pendant sa campagne dont on pensait qu'il ne les ferait pas. Il les fait. Je ne dis pas qu'ils sont illégitimes.
Il va le faire en ébranlant les fondements mêmes de la vie parlementaire.
Je dis que parmi cette race de leaders populistes, ils ont quand même cette chose qui nous surprend. Qui nous surprend, c'est que quelle que soit l'énormité de ce qu'ils ont proposé en campagne, ils le font. Deuxième chose, vous dites que les Européens sont unis là-dessus. C'est vrai qu'ils sont globalement unis, mais on avait vu au dernier sommet quand même des tensions entre Macron et Merkel. Merkel étant tentée, pour des raisons très simples d'industrie, c'est qu'elle veut vendre vendre des voitures en Angleterre, d'être plus coulante vis-à-vis de l'Angleterre. Et puis troisième point, qui me tue en lupine, c'est qu'on dit ce Brexit, ce no deal, c'est pas très grave. De toute façon, on parle des conséquences pour les Anglais, qu'ils se débrouillent, ils auront une pénurie de médicaments, c'est pas très grave. Ils n'avaient qu'à pas voter. Moi, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est quelles seraient pour nous les conséquences d'un no deal. Alors, le gouvernement nous dit, on est prêt, on a recruté des douaniers, patin couffin, tout ce que vous voulez, mais l'économie française, la France aurait-elle à pâtir d'un no deal? Je ne trouve pas des réponses, personne ne le sait.
Alors, vous faites bien de poser la question, extrêmement difficile à jauger. J'ajoute un quatrième point, si vous le permettez, cher Gilles. Eh bien, c'est le backstop, le fameux filet de sécurité entre les deux Irlandes. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, l'Irlande va de nouveau se retrouver face à, peut-être, ses anciens démons. Sophie Manteau, je ne sais pas si la reine d'Angleterre peut régler ce problème, mais cela reste tout de même sur la table, et c'est quelque chose qui va s'imposer à nous rapidement.
Oui, non, mais je parle très sérieusement, parce que c'est un problème antidémocratique qui arrive à l'Angleterre. Alors, en tout cas, l'Irlande, c'est épouvantable. Pour parler un peu des méchants patrons, au MEDEF, ils sont très inquiets. Ils pensent que nos entreprises vont souffrir d'un Brexit. C'est évident.
Mais ils n'ont pas d'estimation précise pour répondre à Gilles Landstein.
Non, il n'y a pas d'estimation.
Et souffrir comment, en quoi?
D'abord, ça va être les échanges qui vont être très différents. Ensuite, ça veut dire qu'il faut rapatrier énormément de cadres. Ça veut dire qu'au niveau du management des ressources humaines sur des entreprises...
Mais donc, ça va être bon pour l'emploi en France.
Ah oui, c'est plutôt bon.
Ça peut être bon pour l'emploi en France. Enfin, ça se joue pas comme ça. Ça peut être bon pour l'emploi en France, effectivement. Encore faut-il qu'on puisse recruter, parce que je vous signale que le vrai problème aujourd'hui, les entreprises, et je le dirai jamais assez, c'est qu'on n'arrive pas à recruter.
En tous les cas...
Non, pas du tout, les syndicats, on s'en fiche maintenant.
En tous les cas, suite du feuilleton demain, puisque les députés britanniques reprendront le chemin de la Chambre des communes avec sans doute d'autres rebondissements à venir. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec Édouard Marier.
Après le passage de l'ouragan Dorian, les opérations de secours débutent dans l'archipel des Bahamas. L'ouragan qui souffle à près de 300 km/h se dirige maintenant vers les États-Unis et la Floride notamment. Sur l'autre côte américaine, à l'ouest des États-Unis, 34 personnes sont portées disparues après l'incendie d'un bateau de tourisme au large de la Californie. L'IGPN est saisie après le 100e féminicide de ce week-end de l'affaire de Cagnes-sur-Mer. Cette femme retrouvée morte sous un tas d'ordures après une dispute conjugale. La police des polices devra apporter des éclaircissements sur les conditions et les délais de l'intervention des policiers. Le principal suspect dans l'attaque au couteau de Villeurbanne est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Il est aussi placé en détention provisoire. Cet Afghan de 33 ans a tué une personne et en a blessé 8 autres samedi soir. 18 migrants sauvés de la noyade par un ferry de la compagnie Corsica Linea qui était parti d'Alger pour rejoindre Marseille. Ces personnes étaient à la dérive. Elles ont été débarquées à Majorque. Nous avons seulement fait notre travail de gens de la mer, a commenté la compagnie maritime. Keylor Navas signe au PSG. Il arrive du Real Madrid. Ce gardien s'engage pour 4 ans. Alphonse Areola, qui était jusque-là le gardien du PSG, quitte Paris pour le club madrilène, justement, prêté sans option d'achat.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un sujet qui vous tient à cœur pour refermer ces informés, le retour des 80 km/h. Cela se passe discrètement en commission à l'Assemblée nationale qui est consacrée à la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités. Un certain nombre d'élus, vous le savez, envisagent de repasser à 90, à l'image de Germinal Perrault, président socialiste du conseil départemental de la Dordogne. Cela concerne 10% du réseau local. Germinal Perrault sur France 2, qui envisage d'autres moyens de lutte contre la vitesse excessive.
Je n'ai pas attendu de recevoir une lettre pour réfléchir à l'accidentologie dans mon département. On y réfléchit sans arrêt, et par des aménagements routiers en particulier, par la qualité des routes, mais aussi par la répression contre l'alcoolisme, contre les produits stupéfiants et contre les très grandes vitesses.
Saverya Rojec, est-ce toujours un sujet de mécontentement chez les Français ?
Ben ça l'a été. Ça a été une des mesures qui a été au germe, j'allais dire, un des déclencheurs de la crise des gilets jaunes. Donc le gouvernement, donc l'exécutif, cherchait un moyen pour revenir dessus. Ils ont fait la politique. Ils ont trouvé un moyen pour ça, c'est-à-dire que le gouvernement, en fait, a piégé les élus locaux. Pourquoi ? Parce que, en fait, avec cette mesure, c'est un amendement qui est déposé par La République En Marche, par la majorité, on donne au département et non plus au préfet, et non plus à l'État. Donc, c'est bien les départements, les élus locaux, qui auront la responsabilité demain de décider ou pas d'un retour aux 90 km/h. Donc, en clair, si ce retour aux 90 km/h s'accompagne, et c'est sans doute ce qui va se passer, d'une hausse de la mortalité.
C'est pas
le gouvernement qui devra l'assumer, ce seront les présidents des départements. Donc c'est vraiment, plutôt que de revenir sur cette mesure qui avait déclenché la bronca et une partie de la crise des gilets jaunes, oui. Eh bien le Premier ministre choisit de renvoyer la balle au département. C'est retort, c'est très retort, mais c'est de la politique.
Saverya Rojec dit en clair, mais Sophie de Menton, je ne sais pas si c'est très lisible cela.
Moi, je trouve ça bien. Non mais attends, est-ce que c'est pas du bon sens ? Pardonnez-moi, mais je veux dire, celui qu'on vient de voir, il connaît son département, il est sur la route, il est en train de dire voilà,
je fais attention à ça. Par contre, ce que je pensais du fond de la mesure, qui, à mon sens, évidemment qu'il faut rester aux 80 km/h. C'est ce que disent tous les experts. C'est une mesure qui est demandée depuis des années. Juste un chiffre. 2018, l'année du plus faible nombre de morts sur les routes en France.
Je pense évidemment qu'il faut rouler moins vite pour avoir moins d'accidents, vous avez raison. Cela dit, je pense qu'il n'est pas normal que tout descende d'en haut et que ce soit l'État au sommet qui décide de ça. Et je pense que c'est assez intelligent de redonner une subsidiarité à des décisions locales. C'est-à-dire, qui connaît mieux que les élus le réseau local, le réseau routier, et après tout, s'il y a un problème et s'il y a plus de morts dans le département, Ça jouera. Moi, je pense que ces décisions venues d'en haut, c'est pas les mêmes pour l'Ardèche, les Alpes-Maritimes ou le Nord. Donc, alors, sur la vitesse, je suis d'accord avec vous. Sur le reste, moi, je trouve ça pas mal de leur donner le pouvoir.
Henri Vernet, c'est le Parisien qui a révélé récemment le début, le commencement de la casse des fameux invincibles, c'est ce que vous dites, radar tourelle. Ça veut dire qu'il y a une colère qui gronde toujours.
Ah oui, bien sûr, la colère est là. Mais justement, c'est, pour moi, cette décision, c'est vraiment c'est l'échec de la politique. Quoi. C'est piteux. C'est un épisode très piteux. C'est de la lâcheté politique. Excusez-moi, madame, mais moi, je fais aucune confiance dans l'élu qu'on a vu pour me dire ça, c'est dangereux. En quoi est-ce qu'il est des ponts et chaussées? Est-il un grand expert? Bien sûr que non. C'est Édouard Philippe qui avait fait une grande cause de la lutte contre l'accidentologie, contre la mortalité sur les routes. Il avait pas sorti d'un chapeau cette mesure des 80 km/h. C'est en effet le fruit de longues expériences ailleurs, de tonnes et de tonnes de rapports d'experts. Bon, les experts n'ont pas la science infuse non plus, mais quand même. Bref, c'était une mesure de courage politique. À la première alerte, c'est courage, fuyons. On retombe dans l'habituel immobilisme, dans l'habituelle démagogie française. C'est très bien. Non, les élus locaux n'ont pas forcément raison. Et donc, non, pour moi, c'est le manque de quoi je réformer. En plus, c'est contradictoire avec la méthode qu'on vient d'évoquer, enfin, en début d'émission, avec Blanquer, qui va évaluer et expérimenter sa réforme. Là, on n'aura même pas laissé le temps à l'expérimentation, puisque je vous rappelle que cette mesure a été prise pour 2 ans. Et il fallait l'évaluer au bout de 2 ans. Bah non, elle est flinguée au bout de même pas 1 an.
Gilles Bornstein, la peur du gilet jaune qui est derrière tout ça?
Oui, bien sûr, c'est la peur du gilet jaune. Et puis, c'est d'accepter un certain Paris bashing et expert bashing qui, moi aussi, m'agace. Si, c'est à Paris qu'un jour, on a décidé que quand on conduisait bourré, c'était pas terrible.
On peut le décider n'importe où, ça, quand même.
Absolument. Non, mais parce que vous disiez, j'en ai marre de tous ces gens qui décident de Paris. Bah, les lois, elles sont faites à Paris, parce qu'il se trouve que Paris est la capitale de la France. Il y a un certain nombre de comportements, comme vous l'avez dit, Édouard Philippe, il n'a pas fait ça par ailleurs. Maintenant, bon courage pour les élus locaux qui vont décider de revenir là-dessus, parce que le jour où ils vont devoir assumer devant l'opinion publique.
Ça va les faire réfléchir. Pourquoi voulez-vous? Ils ne sont pas débiles non plus, les élus locaux.
D'accord, ça va les faire réfléchir.
On voit qu'ils vont être beaucoup
moins enclins. Ils ne sont pas électoralistes.
Ils vont être beaucoup moins enclins à revenir sur les 80 km/h que ce qu'ils disaient avant. Voilà. Et quand je vois qu'il y a des élus de La République En Marche qui ont été élus pour faire l'inverse, qui participent à ça, il y a un député de la Gironde, j'ai vu qu'il avait dit les ayatollahs qui veulent tout décider depuis Paris et pensent savoir mieux que tout le monde. Voilà, il y a un certain nombre de choses dans une démocratie. On vote, on élit des députés pour qu'ils votent des lois, c'est comme ça.
Henri Vernet, vous êtes sur le plateau. Quelle sera la une demain du Parisien?
Marine Schiappa, le Grenelle. Donc elle répond, la ministre répond à nos lectrices et à nos lecteurs.
Longue interview, j'imagine. Très longue interview. Et réaction de vos lecteurs. Peut-être avec vous, Sophie de Menton, la thématique de votre prochaine édito dans Challenge.
La rentrée de tous les dangers.
Voilà, merci à vous, Savaria Rojec, Sophie de Menton, Henri Vernet et Gilles Bornstein.
Merci.
À demain pour une toute nouvelle édition Désinformé sur France Info. Bonne soirée.